Bonjour, c'est Romaric Briand. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'audio d'un de mes lives enregistré sur Twitch le premier mardi du mois. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs livres, leurs jeux, leurs œuvres. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau stream. Je ne sais pas si tout se passe bien, si tout va bien, si vous voyez bien, si vous entendez bien. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes déjà là. Tac, je pense que ça marche pas trop mal. C'est super. Hello Top Bard, bonjour à toi. Eh bien c'est parfait, si on m'entend, c'est nickel. Bonjour à Arakis, à Newtwo, à François. Bonjour à Myriam. Merci beaucoup d'être ici pour ce nouveau stream. On va aujourd'hui donc continuer, parce que ça vous a beaucoup plu la dernière fois. On va continuer donc notre étude du Tractatus de Ludwig Wittgenstein, comme l'a annoncé cette petite introduction vidéo. Alors, ce que vous avez entendu, c'est un concerto de Ravel, le concerto pour la main gauche, pour Paul Wittgenstein. Et donc du coup un lien évidemment avec Ludwig Wittgenstein, puisque les Wittgenstein étaient une grande famille d'armateurs très très riches, et donc ils recevaient chez eux énormément de gens très célèbres de leur temps. Merci beaucoup à vous d'être là, ça me fait très très plaisir de vous voir. Oui Antoine, je t'avais reconnu, ça me fait plaisir de te voir ici sur ce stream. J'ai l'impression que le rendez-vous du premier mardi du mois, maintenant, ça y est, a été pris, a été acté. Je retrouve les aficionados de la cellule, les grognards. Ça me fait très plaisir que vous soyez tous là. C'est super. Et puis comme ça, eh bien, on va pouvoir continuer notre exploration du Tractatus. Mais avant, comme chaque semaine, on va faire un petit point sur mes actualités, les actualités du JDR. Bienvenue, Jurgel. Alors, on commence immédiatement avec l'annonce, vous le savez si vous avez suivi ces lives depuis le départ, mon entreprise ne va pas bien et donc les chiffres ne sont pas bons du tout. Mais du coup, en fait, j'ai mis en place toute une stratégie pour essayer de relancer un petit peu la machine. Et parmi donc ces éléments en fait de stratégie, il y a bien entendu l'augmentation. Vous vous en doutiez, je vous l'avais dit, l'augmentation donc du prix des jeux. Donc mon ami Darky, qui s'occupe de tout ce qui est de mon sidekick numérique, n'est-ce pas, qui s'occupe donc de tout le dispositif de la boutique, etc., a donc pris soin aujourd'hui de monter absolument tous les prix de la boutique. Salut Boudi, ça me fait très plaisir. Salut Jurgel, bienvenue à vous sur le chat. N'hésitez pas à participer, hein, j'essaye d'être le plus réactif possible à ce chat. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, c'est l'occasion aussi comme ça de se donner un petit rendez-vous pour discuter. Alors donc voilà, comme vous pouvez le constater, bah, tous les prix ont été augmentés. Le Maelstrom est passé de 20 à 25. Le triptyque du Val est passé à 50 euros. L'Holy Rock a beaucoup augmenté puisqu'il est resté à 0 euros. Vous le savez, c'est un jeu qui n'est pas à vendre, qui est en téléchargement. Ex Nihilo est toujours en téléchargement gratuit, bien entendu. Donjons et Domino est passé à 20 euros. Vous pouvez constater aussi que les Sens sont passés de 25 à 30 euros. Mon plat préféré, Boudi. Merci pour ces questions. Mon plat préféré, je pense que c'est frites. Je suis un enfant, donc ça va être steak haché frites, tu vois. Je prends toujours le menu enfant, moi, tu vois, mais... Donc voilà, voilà pour ta réponse. Donc vous voyez que tout a augmenté, hein. les prix ont vraiment augmenté, en tout c'était augmenté de plus ou moins 5 euros. Voilà, plutôt que de déguiser en fait une augmentation des prix des ouvrages derrière une augmentation des frais de port comme le font la plupart des éditeurs, eh bien moi j'ai choisi d'augmenter directement, facialement en fait, le prix des jeux, parce que ça change absolument rien. Voilà, les frais de port ont également augmenté, donc voilà, c'était annoncé, vous le saviez, hein, qu'à partir du du mois d'avril, les prix seraient augmentés. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux, nombreuses à profiter des derniers instants, donc du mois de mars et de la fin février, pour acheter les jeux à leur prix originel. Et du coup, eh bien, ça a fonctionné. Ça m'a permis de rassembler en fait un trésor de guerre financier, et trésor de guerre qui va me permettre de pouvoir continuer l'aventure. Et donc de lancer les jeux à venir. D'ailleurs, grâce à ce trésor de guerre, j'ai d'ores et déjà acheté les billes d'Ex Nihilo que je vous avais montré la dernière fois. Et je commence à travailler également avec mon illustratrice Alice Oumrani sur le prochain projet de jeu de rôle que je vous montrerai très bientôt, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. J'ai pas encore assez d'éléments à vous montrer, à vous dévoiler, et puis j'aimerais faire une émission spéciale pour en parler. Salut Emma, ça me fait très plaisir de te retrouver sur le stream également. Alors, donc voilà, donc premier élément, ce que je voulais vous annoncer, c'est l'augmentation du prix des livres. Et évidemment, donc pendant un mois et demi, vous avez pu profiter avant cette augmentation des prix initiaux. Et donc ça vous a incité, et ça a fonctionné, hein, ça vous a incité à acheter les jeux, et comme ça à me confectionner un petit trésor de guerre pour publier mon prochain jeu. Donc ça, je vous remercie beaucoup. Ça va me permettre comme ça de pouvoir respirer un peu et de rematérialiser mes jeux, ce qui est de loin la meilleure solution à mon avis pour pallier au problème de rémunération. Oui, ça viendra, Uriel. C'est promis, je te montrerai tout ça. Donc voilà. Donc ça, c'est un premier élément. C'est que grâce à cette augmentation de prix, bah, j'espère redresser la barre. Et grâce à cette augmentation de prix, vous avez acheté les jeux. Et donc ça m'a permis de récupérer un petit pactole avec lequel je vais pouvoir travailler sur la suite. Je voulais également vous annoncer que je serai à Saint-Malo, aux portes ouvertes des seigneurs d'Alette. Les seigneurs d'Alette, ce sont une bande d'individus, de Malouins, qui pratiquent le jeu de rôle à Saint-Malo au sein d'une association qui s'appelle les seigneurs d'Alette. Et donc, pour fêter leurs 30 ans, ils organisent leur première porte ouverte. Je crois qu'ils n'avaient jamais fait ça jusqu'à maintenant. Et donc, du coup, ils ont loué une salle, donc la salle des fêtes de Rothéneuf, pour organiser ce salon, donc qui aura lieu le samedi, donc ce week-end, à partir de 10h. Vous avez toutes les informations. D'ailleurs, je devrais peut-être vous partager, quand je partage des trucs comme ça, je devrais peut-être vous le partager. Je devrais peut-être vous donner les liens comme ça. Tac, c'est ça qui se fait. Boody Life me dit rien à voir, mais Trip to Sky, c'est chaud. Je pense qu'ils parlent de la campagne qu'ils sont en train de jouer en ce moment avec Antoine Foin. Ils ont commencé une campagne. J'ai reçu déjà des musiques et des chants de marins, des trucs comme ça. Voilà, ça a l'air chaud. Ça a l'air chaud. Bah, tant mieux, Boody, ça me fait plaisir. Donc voilà, donc je serai aux portes ouvertes des Seigneurs d'Alette. De l'Alliance des Seigneurs d'Alette, puisqu'il faut être très précis. Je serai aux portes ouvertes samedi à Saint-Malo. Donc si vous voulez me croiser, si vous habitez Rennes, Caen, c'est les environs, eh bien vous pourrez comme ça me croiser à cette petite convention. Je viendrai enregistrer notamment les tables rondes. Et puis, ça me donnera l'occasion comme ça de rencontrer les associés de Saint-Malo. Je les connais pour la plupart dans l'intimité, mais je ne sais pas exactement. C'est assez marrant ce que j'ai fait. Évidemment, je joue pas mal à Magic sur Saint-Malo, donc vous imaginez que tous ces rôlistes, je les ai rencontrés plus ou moins. Vous avez eu d'ailleurs l'occasion d'entendre dans les podcasts de la cellule quelques-uns d'entre eux, donc des gens comme Johan Fichet, des gens comme Julien Botton, des gens comme Damien que vous avez entendu également. Voilà, vous en avez certainement entendu des membres des Seigneurs d'Alette. Donc c'est l'association de jeux de rôle de Saint-Malo. Et ben voilà, je crois que donc si vous voulez encore une fois découvrir cette association qui a énormément grossi depuis la fin du confinement. Ils sont très très nombreux maintenant à faire partie de cette association. Avant le confinement, ils étaient peut-être une dizaine, et puis maintenant ils sont une quarantaine apparemment d'associés. Donc c'est une grosse association de jeux de rôle dans la région, et ça fait très plaisir de voir que le jeu de rôle est bien vivant en Bretagne et surtout à Saint-Malo à travers les seigneurs d'Alette. Il y a trop d'Antoine dans l'univers de Romaric, me dit Top Bard. C'est vrai, vous êtes nombreux, vous êtes très très nombreux les Antoines. Sais-tu Antoine qu'il existe? En disant sais-tu Antoine, je sais que je m'adresse à environ la moitié, 50% de ma communauté. Donc sais-tu Antoine qu'il existe comment dire, une association, une amicale de tous les Antoines de France, et que leur slogan c'est Antoine ne doute jamais. Antoine ne doute jamais. Voilà, petite promotion pour cette association des Antoines. Voilà, c'est vraiment, vous apprenez des tas de choses, hein, ce stream incroyable. Donc voilà, tout ça. Oui, tu connais, bah ouais, bah je m'en doutais que tu connaissais tout ça. Donc voilà, en tout cas, une occasion de découvrir les seigneurs, l'Alliance des seigneurs d'Aleth. Donc samedi prochain pour la convention qui fêtera les 30 ans de cette association. Voilà. Je voulais également vous parler d'un rendez-vous. Alors, j'ai bien noté que vous aviez adoré, vous aimiez beaucoup donc les commentaires du Tractatus de Ludwig Wittgenstein. Donc, j'ai décidé de maintenir évidemment ce rendez-vous autour du Tractatus. Je pense que je vais continuer comme ça tous les streams à faire ce petit rendez-vous avec vous. Ça me fait très très plaisir de vous commenter le Tractatus et de vous montrer toute la richesse du travail de Ludwig Wittgenstein, en tout cas du premier Wittgenstein. On parlera peut-être du second plus tard, mais déjà on va travailler sur le premier. Et donc du coup, comme ces streams sur Wittgenstein vous plaisent beaucoup, eh bien ma foi, je pense que je vais faire des streams spéciaux pour parler d'autres choses. C'est-à-dire que je vais essayer de régulièrement vous parler du Tractatus, garder ce rendez-vous avec vous, et puis peut-être eh bien organiser du coup des streams spéciaux pour parler de sujets autres. Et à ce titre, il y a déjà un sujet comme ça qui est prévu avec vous. Ce sera le 25 juin. Le 25 juin. Donc notez bien la date. Hein. Le 25 juin, je ne me trompe pas, c'est bien un mardi. Hein. Attendez, j'ai même pas vérifié avant le stream. C'est bien. Hein. Je suis au top. Le 25 juin. Oui, c'est bien un mardi. Ce sera un mardi, donc comme vous en avez l'habitude, ce sera un mardi. Et donc le 25 juin, vous retrouverez une émission spéciale, un live spécial consacré au village et consacré à un travail très particulier qui a été fait autour du village, un travail qui a été fait par Guillaume Rioux et son frère, un travail de statistique en fait autour du village, et ils nous montreront un document très intéressant dans lequel ils détaillent les mathématiques derrière le village. Donc ce sera l'occasion comme ça de parler du village, de détailler des stratégies, d'étudier avec vous les différentes possibilités qu'offre le village et de calculer en fait, carte après carte, stratégie après stratégie, les probabilités qui se cachent derrière celle-ci. Donc ça va être un live absolument ouf en termes de... Salut Gwendal, ça me fait plaisir de te retrouver là. Ça va être un live complètement ouf en termes de maths et en termes d'analyse de jeu. Moi, j'ai jamais été aussi profondément dans l'analyse statistique d'un de mes jeux, donc ça va être vraiment super top. Donc j'ai vraiment... À plus Antoine, mange bien, bon appétit, et puis retrouve-nous après, parce qu'après ça va discuter Wittgenstein, ça t'aidera à digérer. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à venir le 25 juin sur cette chaîne, sur ce live. On sera donc avec Guillaume Rioux sans doute et son frère sans doute pour travailler sur le village et travailler les statistiques derrière le village. Salut Damask, ça va la pêche? Alors je sais pas pourquoi, ce soir j'ai le trac. Allez savoir pourquoi ce soir j'ai le trac, c'est la première fois. J'ai l'habitude dans un live, je suis très détendu. Je sais pas pourquoi. Ce soir j'ai les jetons. Alors vous soyez pas surpris si je suis bizarre, si je parle pas comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais ça y est, les lives commencent à me foutre les jetons. C'est peut-être parce que je sais pas. Je vois que ça a du succès, que vous êtes nombreux, nombreuses à suivre. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, tu veux qu'on te mette à l'aise? Alors, Boudy, vu que c'est toi qui dis ça. Je sais pas. Merci en tout cas à vous d'être là, ça me fait très très plaisir. Allez, on y go. On y va, je vais vous parler de la dernière actualité, mais je vais vous en parler un petit peu plus longuement. C'est l'actualité chaude de ce soir. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette news, mais il se trouve que Outsider, alias Thomas Munier, vient de sortir son jeu de rôle marche au bon, enfin vient de sortir. Attention, le jeu est actuellement en précommande chez Dystopia Édition. Mais en tout cas, voilà, Thomas Munier a donc choisi de faire éditer Marchebranche chez Dystopia Édition. Alors, Dystopia Édition, les éditions Dystopia, vous vous en souvenez, si vous suivez la cellule, vous savez qu'on a enregistré un podcast avec Eugénie pour parler donc de ces éditions. Je vous mets le lien vers le podcast, hop, dans le chat afin que vous puissiez aller le réécouter si cette entreprise d'édition de jeux de rôle alternatif vous intéresse. On a vraiment posé toutes les questions possibles et imaginables à Eugénie. Elle nous a également parlé de ses intentions, de ses chiffres, etc. C'était une émission vraiment très intéressante. Je vous invite vraiment à aller la réécouter. Je ferme des onglets au passage. Donc voilà, l'émission sur Dystopia Édition, éditeur de jeux alternatifs. Et donc, parmi ces jeux qui étaient qu'on subodorait à l'édition, qu'on attendait, il y avait effectivement donc un jeu de Thomas Munier. On savait qu'il y avait un jeu de Thomas Munier qui était. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais l'intuition. J'avais eu l'occasion de troller Eugénie, d'ailleurs. Non, c'était Thomas que j'avais eu l'occasion de troller au cours d'une de ses interviews avec un petit panneau Dystopia Édition. Parce que Thomas avait annoncé qu'il allait sans doute éditer l'un de ses projets. Bon, il y avait assez peu de chances pour que ce soit quelqu'un d'autre que Eugénie qui s'occupe de l'édition de Marchebranche. Et donc du coup voilà le comment dire la nouvelle est tombée ce soir. Donc Marchebranche sera bien édité chez Dystopia Édition. Donc je vous laisse découvrir ici la magnifique couverture qui a été donc dessinée par Evelyne Moreau. Qui est une illustratrice qui a pour Marchebranche fait quelques dessins comme ça. On retrouve un autre de ses dessins dans l'interview qu'ils ont donné ou qu'elles ont donné d'ailleurs, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, on pourrait dire qu'elles ont donné donc pour le fixe. En effet, sur ce projet, donc vous avez bien entendu l'auteur qui est Thomas Munier, mais vous avez aussi bien sûr l'éditrice qui est Eugénie. Vous avez Laure. Alors je sais pas comment se prononce son nom, Afshin, j'imagine, Laure Afshin, donc qui a fait tout le maquettage, et enfin donc les dessins, les illustrations, l'illustratrice du jeu, Evelyne Moreau. Et donc voilà, vous avez comme ça quelques aperçus des dessins de Marchebranche. Alors Marchebranche, c'est un jeu de rôle de Thomas Munier dans lequel, comme Vivien Féasson et moi-même, Thomas Munier en fait a un espèce de Thomas Munier Extended Universe. Donc en fait, tous ces jeux participent d'un même univers, qui est cet univers que vous connaissez sous le nom de Milvaud. Donc c'est une vaste forêt aux prises avec de nombreux dangers, des éléments fantastiques, des grands anciens de Cthulhu. Il y a une problématique autour de la mémoire également dans Milvaud. Et Marchebranche, justement, Marchebranche, c'est cette partie en fait de l'univers de Milvaud qui va traiter de cette problématique de la mémoire. Dans Marchebranche, on joue des marchebranches qui sont des chamans qui vont en fait de village en village rendre des services à des communautés indépendantes dans la forêt afin de récupérer des tarots de l'oubli ou des tarots de la mémoire, je ne sais plus exactement le nom, mais en tout cas des cartes en fait qui vont leur permettre de récupérer, d'avoir des visions non pas de l'avenir mais du passé et donc qui vont leur permettre de récupérer des souvenirs. Il se trouve qu'à la cellule, on avait eu l'occasion de playtester en fait le jeu à son tout départ, au tout début en fait quand le jeu n'était pas encore en projet d'édition. Donc je vous invite à aller écouter ce playtest. D'après ce que j'ai vu, il y a quand même, d'après ce que j'ai lu, pardon, parce que j'ai rien vu de Marchebranche à l'heure actuelle, mais par contre, d'après ce que j'ai pu lire ici ou là, en termes de contenu, j'ai l'impression que les règles ont été légèrement modifiées, sans doute affinées, mais globalement, les mécaniques principales du jeu sont conservées. Alors, Thomas Munier le résumait en Alors attendez, je vois une question. La version free, c'était pas le jeu complet, du coup c'est une version 2 point interrogation. Oui, effectivement, là ça va être vraiment une version affinée. Vraiment, je pense qu'il y aura de nettes améliorations, même en termes d'écriture, d'ambiance, en termes évidemment de maquettage, parce que vous savez que Thomas Meunier est un anarchiste. Pardon, parce que si je dis nanar, ça peut être mal pris. Un anarchiste complet en fait de la mise en page. Si vous avez déjà vu des jeux de Thomas Meunier, vous savez que c'est vraiment sculpté comme la matière brute du bois. Vous pouvez avoir des livres avec des clous dedans. Parfois, il y a des illustrations qui passent sur le texte et qu'on ne peut lire qu'en transparence. Enfin, là, il y a une vision. C'est un peu comme quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez aussi Patronoban, qui est donc un auteur aussi comme ça, très punk, très anar, dans lequel la mise en page est très, très anarchique. Là, d'après ce que je vois, la mise en page a l'air d'être plus soignée, mais garde cet aspect forestier, sludgecore, vraiment de les photomontages de l'enfer, nous dit Damask dans le chat, effectivement. Il y a toujours des photomontages de l'enfer chez Thomas Meunier. Je ne sais pas si c'est lui qui les fait ou s'il les récupère sur un site. Je sais qu'il avait un site à un moment donné d'images gratuites sur lesquelles il récupérait pas mal d'images anar comme ça. Oui, mais je crois qu'il en fait lui-même aussi. Bref. Donc, toujours est-il que là, apparemment, l'univers a été retravaillé. Alors, il nous le résumait comme ça dans le podcast, donc je vous le résume à gros traits, son univers. Il disait que, en gros, ce qu'il fallait imaginer pour Marchebranche, c'est d'abord que c'est un jeu qui s'inspire un petit peu en filigrane de l'OSR. Donc ça va être une façon de jouer assez old school. Il y a un maître du jeu, par exemple, dans Marchebranche, d'après ce que nous avions testé. Hein. Peut-être que ça a été modifié. J'ai pas eu encore une fois l'occasion de lire le jeu complet, mais il y avait un maître de jeu, donc ça restait un jeu de rôle traditionnel, le classique, dans sa forme seulement, parce qu'il y a plein d'éléments sur lesquels les joueurs ont un énorme impact en termes de narration. Donc évidemment ça a la forme d'un jeu de rôle traditionnel, mais il a des éléments quand même de narration partagée très importants. Donc d'abord un hommage à l'OSR, on est dans une forêt qui a poussé sur les ruines d'un empire, une forêt qui est envahie par une maladie, c'était le deuxième élément qu'il disait, une maladie qui fait oublier les souvenirs des gens. Donc la mémoire est une problématique très importante pour les habitants de Millevaux. Alors, il y a Boody Life qui nous dit il fait pipi dans ses bouquins pour faire plus réaliste en mode forêt. Alors, non. Mais non, parce que quand même Thomas est un gentleman, faut pas. Je sais pas s'il serait capable de faire ça. Et tu vois, limite, je me pose la question. Et tu sais qu'une fois, il m'a donné un bouquin, il me l'a vendu. Et donc je lui ai demandé une dédicace, et en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des clous, c'est véridique, hein. Il a pris des clous, et avec un marteau, il les a plantés dans le livre. Donc voilà, ça c'est un exemple. Quand j'ai acheté la version collector de Milvaux, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, avec ses petites mains boudinées, eh bien Thomas Meunier faisait des versions collector de Milvaux, qu'il faisait lui-même, qu'il cousait en fait. Lui-même, donc il cousait la couverture lui-même. À l'intérieur, quand j'ai reçu le livre, il y avait des glands, des feuilles, il y avait vraiment comme s'il l'avait, il avait été dans la forêt, il avait mis tout ce qu'il avait trouvé, il avait mis ça, il l'avait emballé. Donc non, il fait pas pipi, mais il est possible. Ouais, les clous. Les clous, Gwendal, je te jure, c'est une façon, si tu veux, pour lui de rappeler que finalement, ben, un livre, c'est que du bois. Et il y a quelque chose de très choquant, quoi. Tu vois, un livre clouté, il y a quelque chose, ben, ça rappelle la crucifixion, tu vois. Ça rappelle, c'est ce livre sacrifié, ça rend au livre, en fait, une certaine forme de vie. Ça fait du livre un végétal, presque, un élément du bois. Et donc, du coup, ça le rend vivant, sacré, étrange. Tu vois, là, toi, je sais Gwendal qui adore les vidéos d'HAL 236 et tout ça. L'univers de Milvaux, c'est un univers à la HAL 236 en fait. Et donc, oui, il y a un côté un peu religieux, effectivement. Tu as raison, Gwendal. Salut Rick Pogan, ça me fait très plaisir de te retrouver dans ce live. Tu es un fidèle, hein? Merci beaucoup. Donc, oui, il y a un côté religieux, effectivement. On pourrait presque, tu vois, on avait presque. S'il avait pu, je pense qu'il aurait fait saigner son livre. tu vois, dans l'idée. Il aurait planté les clous et si ça, s'il avait pu, il aurait fait rouiller son if, tu vois, tellement. Donc il y a quelque chose comme ça chez Thomas Munier de très très sauvage, très. Il aime beaucoup l'art, ce qu'il appelle l'art outsider. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est que l'art outsider, mais en gros, c'est tous ces gens qui décident du jour au lendemain de se lancer dans une entreprise artistique sauvage, en dehors des, totalement en dehors des clous des musées de l'histoire de l'art, tu vois. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Par exemple, pas très loin de Saint-Malo, on a les rochers sculptés, où il y a l'abbé Fouré qui, du jour au lendemain, s'est dit, bah tiens, je vais sculpter les rochers qui se trouvent sur la plage, et qui a conçu comme ça tout un ensemble énorme de rochers qui sont sculptés avec des villages, des villages, des visages, etc. Et ça donne de l'art comme ça, fait sur la pierre. C'est très étonnant. Je ne sais pas ce que c'est une un bomber. Je ne sais pas. Bonjour Alex. Salut, ça me fait très plaisir de vous retrouver tous. Et vous êtes nombreux, c'est ça. Ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur. C'est aussi pour ça ce soir que j'ai un peu le trac, je crois. C'est parce que vous êtes de plus en plus nombreux, ça commence à me faire peur. Alors, donc, mais tant mieux, tant mieux. Ne partez pas, non, ne partez pas. Mais voilà. Donc, c'est très bien. Donc, voilà, podcast numéro 14. On avait consacré ce podcast à Marchebranche avec Thomas Munier. On était également avec Johan et Patrick Frogeaters. Donc, je vous invite à réécouter ce podcast. Si vous voulez en savoir plus sur le playtest de Marcheblanche, en sachant bien entendu que le vrai, entre guillemets, le vrai Marcheblanche dont il s'agit ici, eh bien, c'est le Marcheblanche édité par Dystopia et disponible en précommande sur le Dystocite. Je vais vous partager ici, tac, le lien vers Dystopia.fr. Et donc, sur la première page, vous trouverez tout simplement les différents liens. Un lien également vers une interview donc du fixe que je vous ai montré tout à l'heure, dans laquelle vous entendrez toutes les personnes qui ont participé à Marche-Branche. Donc c'est intéressant aussi de voir les sources d'inspiration de l'illustratrice, comment elle s'est inspirée de ses balades en forêt de quand elle était petite pour rendre compte en fait de la forêt de Millevaux. Il y a aussi quelques comme ça, quelques aperçus de la mise en page du livre qui a l'air vraiment très jolie. Il y a plein de choses à voir sur les interviews. Je ne vous en parle pas davantage. Il faut savoir que dans la forêt de Millevaux, parce que je me suis interrompu, mais il y a également une dimension fantastique. Comme je vous l'ai dit, la mémoire est un enjeu énorme. Il faut aussi savoir que les émotions sont un enjeu énorme dans la forêt de Millevaux, parce qu'il y a dans la forêt de Millevaux, et donc dans l'univers de Marchebranche également, un phénomène qu'on appelle l'égrégore, qui est donc un phénomène de manifestation physique ou réelle de l'inconscient collectif. Donc par exemple, si vous êtes dans un lieu où les gens sont, par exemple, tristes, c'est l'exemple qu'on cite dans le podcast, tristes d'avoir perdu le chef de leur village, eh bien vous pouvez avoir de la brume qui apparaît à cause de la tristesse de ces gens, et pourquoi pas une apparition, un fantôme, un spectre du chef du village qui va hanter les lieux. Et justement, dans l'univers de Millevaux, on trouve ce qu'on appelle des Orlas, qui sont des créatures plus ou moins horrifiques, plus ou moins terrifiantes, qui sont des manifestations physiques, des spectres en fait, qui se manifestent depuis l'égrégore des lieux, donc des manifestations d'inconscient collectif qui prennent vie et qui peuvent potentiellement nous causer des torts et qu'il faut exorciser. Alors attention, ce que je vous dis là, c'est pour l'univers de Millevaux. C'est pour l'univers de Millevaux. Donc c'est l'univers général, c'est le Thomas Munier Extended Universe, c'est l'univers général dans lequel a lieu Marchebranche. Mais dans Marchebranche, on aborde plutôt la partie lumineuse de Millevaux. On est plutôt dans un univers plus proche de Princesse Mononoké que dans l'univers horrifique Lovecraftien dans lequel les Orlas ont des tentacules et font du sludgecore dans la forêt. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus. Dire feel good, non, je dirais clair-obscur, c'est comme ça d'ailleurs que Thomas Munier le définit, quelque chose de plus clair-obscur, et d'ailleurs, c'est pour ça, j'imagine, qu'il a demandé à l'illustratrice, parce que je ne sais pas si Thomas Munier a spécialement commandé ses dessins aussi, il a, comment dire, laissé l'illustratrice imaginer cet univers par elle-même, mais en tout cas, voilà, j'imagine que c'est aussi pour ça que les illustrations sont en noir et blanc, hein, pas de niveau de gris, on voit que c'est du noir et du blanc, parce que le jeu se définit lui-même comme un jeu en clair-obscur. Et je dirais que de tous les jeux de Thomas Munier, enfin moi, à titre personnel, j'ai trouvé que c'était un des jeux les plus positifs, les plus feel-good, les plus intéressants sur le plan de la quête personnel des personnages le moins, on va dire, le moins larmoyant. Même si, évidemment, avec le retour des souvenirs, vous imaginez bien qu'il va y avoir aussi, eh bien, de l'émotion. Il va y avoir des révélations, des secrets que les gens vont découvrir sur leur passé. Et donc, forcément, ça va être beau. Ça va être beau, ça va être beau, ça va être drama, etc., etc. Donc voilà, je vous laisse précommander le jeu de Thomas Meunier, je vous invite vraiment à le faire. J'ai vu que Thomas Meunier, donc dans l'interview qu'il a donnée au Fix, donnait comme justification, c'est vrai que Thomas Meunier, comme Frédéric Sintès, comme Christophe Buckley, comme Fabien Ilvine, comme moi-même, et j'oublie Vivien Féasson bien entendu, a souvent été, et Morgane Reynier, et finalement tous les membres des anciens, des feux ateliers imaginaires, et puis ensuite des courants alternatifs, tous ces gens ont été quand même des grands défenseurs de l'indépendance. Et donc, on pourrait être surpris de voir Thomas Meunier être édité par une maison d'édition. Et comme l'explique très bien Thomas Meunier dans son interview pour Le Fixe, eh bien, en fait, il est exactement comme moi. Il est rendu aussi à un moment de sa carrière et de sa vie intellectuelle où il a fait tellement de jeux que, il peut plus maintenant s'occuper de chacun de ces jeux vraiment comme il le voudrait. Et plutôt que de les abandonner à l'internet qui oublie tout, eh bien ma foi, je pense que Thomas Meunier préfère tout simplement les voir édités, les voir placés entre les mains d'un éditeur qui comme Eugénie en plus est une vraiment quelqu'un qui suit le mouvement de l'indépendance depuis ses débuts, qui a beaucoup interagi avec nous, qui connaît très très bien les problématiques de l'indépendance. Eh bien, il vaut mieux laisser effectivement marche branche à un éditeur comme Dystopia, dirigé avec une directrice éditoriale comme Eugénie, qui sait très bien comment faire de l'alternatif, de l'indépendant, etc. Et donc sa démarche aussi est justifiée par une idée de laisser en fait un jeu comme ça à un éditeur et à une éditrice en l'occurrence, et c'est très 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 bien. Je rappelle que Dystopia n'est pas une édition à proprement parler de jeu de rôle, hein, qu'il y a une partie jeu de rôle dont Eugénie est la directrice éditoriale chez Dystopia, mais qu'il existe aussi que Dystopia est une maison d'édition indépendante par ailleurs, enfin une maison d'édition qui édite d'autres types de livres. Mais je vous invite à écouter le podcast pour écouter Eugénie en parler, elle en parle bien mieux que moi. Voilà. Bonjour au chat, salut, ça me fait très plaisir de te retrouver ici. Ah oui, ça me fait très plaisir. Très très plaisir de te voir passer sur ce chat. Parce que tu stream aussi le mardi, si je comprends bien. Donc voilà. Alors je remonte un petit peu le fil des questions. Mais alors, est-ce que tu as pu échanger avec Thomas à son point de vue concernant l'édition de Marche Branche en opposition avec son choix d'utiliser Lulu? C'est pour toucher plus de monde, avoir un livre mieux imprimé, etc. Non, je n'ai pas eu Thomas Mun. J'ai pas pu avoir. La news vient de tomber, Damasque. Il faut savoir que là, la nouvelle de l'édition de Marche Branche est tombée. Il y a genre j'ai vu le tweet de Vivien Féasson il y a 2 heures. Donc je n'ai pas eu le temps. J'ai essayé d'appeler Eugénie. Je ne l'ai pas eu au téléphone. J'ai reçu un mail de Thomas Meunier. Je n'ai pas eu le temps de lui en renvoyer un. Donc vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. On aura peut-être l'occasion d'interviewer Thomas, tout simplement, hein, la cellule, pour en savoir plus. Pour l'instant, la cellule est en pause, hein, vous le savez. J'aimerais la réveiller en 2025 à peu près, parce que là, vraiment, je suis sous l'eau. Mais voilà. En tout cas, je pense qu'on saura exactement dans quelles conditions Thomas édite ce jeu, mais encore une fois, ça fait longtemps que Thomas et Eugénie. Enfin, il faut savoir un truc aussi, c'est que quand même, s'il faut le dire, Eugénie, c'est l'une des plus grandes fans de Thomas Meunier. Je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui s'est fait promotrice d'Influenza Minima et de Influenza, c'est bien Eugénie. Et les gens qu'on a parfois appelés les membres de l'école du jeu de rôle en performance. Donc Eugénie connaît très bien Thomas Meunier, elle connaît très bien l'univers de Milvaux, elle a joué à tous les jeux Milvaux quasiment, et donc à ma connaissance. Donc vraiment, s'il y a bien une éditrice, tu vois, s'il y a bien une éditrice qui est capable de prendre prendre en compte les desiderata de Thomas et de les mettre vraiment bien en scène, c'est bien elle. Par ailleurs, je sais que Thomas s'était consacré entièrement au jeu de rôle pendant une partie de sa vie et que maintenant, en fait, faute de moyens, il a dû reprendre un travail salarié, me semble. Aux dernières nouvelles, en tout cas, qu'il m'avait données, c'était ça qu'il m'avait dit. Et donc, je pense qu'il n'a tout simplement plus le temps de faire le travail éditorial nécessaire. Et donc, il est bien heureux de pouvoir laisser, en fait, une éditrice comme Eugénie s'occuper. On a vu hein, le travail qu'elle a fait avec Côme Martin, avec la clé des nuages de KF, AK Mallory. On a bien vu quand même que c'était une éditrice qui prenait soin de respecter les desiderata des auteurs. Et d'ailleurs, elle-même a du mal à assumer le fait d'être une éditrice. Quand elle parle, vous écouterez le podcast, mais quand elle parle des jeux qu'elle édite, elle dit des jeux indépendants. J'édite des jeux indépendants. À chaque fois dans le podcast, j'essaye de la reprendre en disant non, tu édites des jeux alternatifs. À partir du moment où tu les édites, ils ne sont plus indépendants. Mais elle dit non, 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 ça reste des jeux indépendants. Donc on voit quand même une attache en fait à cette dimension-là. Et donc évidemment, quitte à travailler avec un éditeur, autant travailler avec une éditrice comme Eugénie, encore une fois, qui travaille. Donc je pense que son choix d'être édité au lieu de Lulu, eh bien, il se justifie par là. Par ailleurs, je rappelle que encore une fois, donc pendant que Thomas faisait donc sa pause, il avait pris en fait une disponibilité à son travail, si vous voulez, pour faire simple, et donc il a fait une pause de quelques années de son boulot pour pouvoir éditer vraiment des jeux de rôle. Et donc il avait proposé un contrat avec ses lecteurs, ses lectrices. Il avait dit, bah voilà, moi je vous publie des jeux gratuitement et en échange vous me soutenez sur Tipeee. Bah, ce contrat n'a pas fonctionné. Exactement comme moi. J'en parlais dans les derniers tweets. Je vous ai parlé de cette opération un PDF contre un soutien sur comment dire sur Patreon, sur Tipeee. Et je vous ai dit, ça ne marche pas. Et je vous avais parlé, d'ailleurs, je crois que je vous avais parlé de Thomas Munier. Je vous avais dit, ils ont voté. Thomas Munier nous avait dit, bah, voilà, quelque part, en disant bah, PDF gratuit contre don, en n'achetant pas ça, les rôlistes ont quelque part voté pour un modèle, en fait. Et donc, ce modèle, bah, c'est celui de rematérialiser les jeux, de refaire des jeux physiques, etc. Et donc, je pense que Thomas Munier s'inscrit totalement, et s'il était là, je pense qu'il serait d'accord, il s'inscrit totalement, en fait, dans la démarche que je vous décrivais précédemment sur pourquoi moi-même je vais rééditer des jeux matériels. C'est que en fait, à un moment donné, le PDF contre don, ça ne fonctionne pas. Par ailleurs, Lulu, ben, à moins d'avoir une communication tonitruante, etc., et vraiment de communiquer activement pour que les gens aient sur Lulu acheter des jeux, moi j'ai pas l'impression que Lulu ça marche beaucoup mieux. Donc, voilà, alors je sais pas, je veux pas parler à la place de Thomas, mais je pense que c'est aussi une des raisons qui font qu'aujourd'hui il repasse à l'édition. Alors je rattrape le chat hein, ra rapidement. Ta ta ta. Donc Colchan nous dit qu'il enregistre une campagne le mardi en général et que c'est pour ça. Qu'il ne peut pas être sur le chat dans mon live plus souvent et que là ce soir il a une chose malade malheureusement. Mais merci beaucoup au chat, ça fait très très plaisir. Aaron Blackwell, bonsoir. Il y a Bois Dormant aussi chez la même maison d'édition chez Dystopia. Effectivement, Bois Dormant donc de Melville la nuit. Tout à fait, j'avais oublié Bois Dormant, évidemment. Mais de toute façon, vous pouvez aller sur le site des éditions Dystopia pour trouver tout ça. Par ailleurs, donc, je vous rappelle que le jeu de Thomas est en prévente sur le Dystocite, là. Donc vous cliquez ici, paf, je ne l'ai pas encore fait, je l'ai pas encore fait, j'avoue. Hein, mais c'est à faire. Et donc vous cliquez là, hop, précommander, et go. Et donc vous avez besoin d'un compte, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait, c'est parce que je ne sais plus quel est mon compte sur Dystopia. Je ne sais même pas si j'en ai un. Je pense que j'en ai un parce que j'avais dû acheter des jeux là-bas. Mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Je sais plus. Donc, mais en tout cas, il faut que je retrouve mon compte. Bref, mais qu'est-ce que je vous raconte? Vous en foutez complètement. Mais voilà, en tout cas, il faut aller cliquer là, et puis il faut acheter, il faut précommander tout ça pour encourager Thomas. Je trouve que c'est une. Et surtout, enfin, encourager Thomas, c'est une très bonne initiative, à mon avis, que de rematérialiser les jeux et remettre comme ça certains de ses jeux sur le devant de la scène. Ça lui fera très plaisir, et puis d'encourager également Dystopia à toujours comme ça aider des anciens ou des auteurs indépendants, à des anciens auteurs indépendants, donc qui ont arrêté, ou des auteurs indépendants qui voudraient éditer certains de leurs jeux parce qu'ils ne peuvent plus en assumer tout simplement la communication. Voilà, et bien c'est toujours bien d'encourager comme ça des éditeurs à reprendre ces objets et à les remettre sur le devant de la scène, un peu comme la boîte à eux autrefois. Je sais pas si vous vous souvenez de la boîte à eux de Ludovic Papaïs qui faisait ça également. Dystopia Édition, c'est un peu la nouvelle boîte à eux. Et contrairement à la boîte à eux, j'aimerais que Dystopia Édition marche du feu de Dieu. Alors vous allez me précommander tout ça immédiatement, d'accord? Des bisous cordialement. Voilà. Marche-branche de Thomas Munier. Donc je crois que je vous ai tout dit, hein. Je crois que je vous ai tout dit. Vous pouvez évidemment retrouver, oui c'est vrai que je n'ai même pas proposé le lien. Je vous partage le lien évidemment vers Outsider, le blog de Thomas Munier sur lequel il partage toutes ses créations. Alors, Aaron Blackwell nous dit, sinon pour parler du sujet, je pense que de plus en plus de joueurs veulent effectivement un support papier. Le PDF, c'est pas toujours pratique autour d'une table. Et puis un bouquin de JDR, c'est une œuvre à part entière. En plus d'être un jeu, je suis parfaitement d'accord. Et de toute façon, on a bien vu, hein, nous autres auteurs indépendants, on a tous fait ce test du PDF contre Tipeee ou contre Patreon. Et on a bien vu tous et toutes, hein, que ça ne fonctionnait pas du tout. Et que en fait, les gens restent encore attachés à du matériel. Je crois que s'il se joue aussi là un petit peu de ce qui se joue un peu dans le monde du jeu vidéo aussi sur le dématérialisé, sur les jeux dématérialisés et les jeux matérialisés. Les gens aiment acheter des jeux en se disant peut-être que plus tard ils pourront les revendre, qu'ils pourront les donner, qu'ils pourront les partager à leurs enfants, avec leurs enfants, à d'autres personnes, les laisser dans un coin d'une bibliothèque, soit dans la rue, soit sur un banc. Ils aiment bien en fait avoir un livre en fait à montrer pour incarner quelque part la fiction qu'ils vont aborder et que le PDF ne joue pas du tout. Ne joue pas du tout ce rôle-là. Et donc effectivement, cela pousse certains auteurs indépendants à rematérialiser leur jeu ou à les faire éditer à long terme. Comme je vous l'avais dit, hein, dans le stream précédent, comment voulez-vous en fait, en tant qu'auteur indépendant, regardez, moi j'ai sorti Sens, j'ai sorti Vademecum, j'ai sorti Leval, j'ai sorti Lollyrock, j'ai sorti Ex Nihilo, j'ai sorti, j'en oublie. Et en fait, à un moment donné, on peut plus assurer Trip to Sky, bien entendu, on peut plus assurer en fait toute la communication autour du jeu. Je vais dans une convention, par exemple. Quel jeu en fait je présente? Bah, je peux pas tous les présenter, je vais devoir faire des choix. Donc du coup, dans chaque convention, je dois choisir quel jeu de rôle je présente. Bon bah résultat, je peux pas tous les présenter. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a certains de mes jeux qui sont complètement oubliés. En Trip to Sky, j'ai jamais réussi à faire la communication sur le jeu. Et voilà, donc du coup, bah on l'a pour partie oublié. Donc je comprends aussi les auteurs indépendants qui décident de passer par des maisons d'édition à un moment donné pour des projets qu'ils ont portés. De façon indépendante, ils les ont portés. Ça a été des projets indépendants, ça a été des jeux indépendants pendant des années. Seulement voilà, Thomas, il a plus le temps. Bon ben voilà, il laisse à un éditeur le soin de le faire. Et en plus, si ça corrobore cette hypothèse dont tu parlais tout de suite à Aaron, à savoir le fait que comment dire, les gens ont besoin en fait d'une matérialité, de matériel pour s'approprier les jeux, eh bien ma foi, grand bien lui fasse. Et moi, je trouve que c'est une très très bonne démarche. Encore une fois, un auteur indépendant n'est pas essentiellement un auteur indépendant. Un auteur indépendant, c'est d'abord un auteur qui produit des jeux de rôle de façon indépendante. D'abord des jeux de rôle indépendants. Puis ensuite, une fois que le jeu de rôle indépendant a eu sa vie en tant que jeu de rôle indépendant pendant 10, 12 ans, comme c'est le cas de Milvaux, hein. Milvaux, ça doit faire au moins 12 ans, peut-être 15 ans qu'il travaille cet univers. Parce que moi, je crois qu'au début de la cellule, Thomas Munier, il était déjà dans les conventions Eclipse que je fréquentais. Donc ça doit faire 15 ans en fait qu'il travaille sur Milvaux. Donc ça fait 15 ans que Milvaux est un jeu indépendant. Donc à un moment donné, il a quand même le droit, à mon avis, c'est pas faire une entorse à l'éthique de l'indépendance que d'éditer une partie d'un de ces jeux. Je pense que vraiment les gens le comprendront et que les au contraire, même ses lecteurs seront attentifs à sa démarche, enfin, comment dire, bienveillante envers sa démarche. Bonjour Sanmore, ça me fait plaisir de te trouver ici. Thomas Munier et toi, vous restez, je pense, comme des précurseurs dans le domaine ludique et du JDR en particulier. C'est très gentil, merci beaucoup, ça demande de dire cela, mais malheureusement, on n'est pas tant précurseurs que ça, parce qu'en vérité, on s'inspire d'un courant indépendant américain, qui est le courant de The Forge, donc qui est un forum américain. On est en fait des petits Français qui suivons la démarche américaine de gens comme Ron Edwards, Vincent Baker, Paul Chéguet et compagnie et compagnie. Et donc on s'inscrit dans une tradition en fait qui remonte à plus que nous. Après peut-être qu'en francophonie, effectivement, on est un petit peu les porteurs de ces démarches, effectivement, et qu'on s'est un petit peu montré, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César, en l'occurrence, il faut rendre à Ron Edwards ce qui appartient à Ron Edwards. On est juste des héritiers de Ron Edwards. Voilà. Et Christophe Buckley. En fait, le premier précurseur francophone, s'il fallait citer son nom, c'est évidemment le premier précurseur francophone, c'est bien sûr Christophe Buckley, qui en ouvrant le forum Silent Drift a ouvert un forum similaire à celui de The Forge. Et donc Christophe a été rejoint plus tard par moi-même, Frédéric, Fabien et plein d'autres que j'oublie, mais je ne cite que ceux-là parce que ce sont ceux qui ont participé à la cellule que vous devez sans doute connaître si vous êtes sur ce Twitch. Mais il y a eu plein d'autres personnes à participer à Silent Rift, dont d'ailleurs Vivien Ferrasson, Thomas Munier et compagnie. Bref, donc voilà, merci Sanmour pour le bon mot, mais voilà, là, on n'est pas les premiers, et j'espère on n'est pas les derniers, et on se bat aussi pour ça. Donc merci beaucoup. Et ben voilà, je pense que je vous ai bien vendu marche-branche, hein, si vous n'avez pas déjà précommandé, c'est que j'ai raté mon travail, mais voilà. Donc voilà. Et je ne suis pas payé par Dystopia Édition, hein. Je fais ça en toute indépendance. Mais je pense que c'est une bonne chose que Dystopia Édition fonctionne. Encore une fois, je le compare à la boîte à eux de Ludovic Papaïs, la regrettée boîte à eux qui éditait tous ces bons jeux américains. Et donc Dystopia, c'est un petit peu l'équivalent pour des jeux francophones, et ça fait plaisir. Voilà. Allez, on va enchaîner. Avec la lecture du Tractatus, lecture que vous attendez tous et toutes, n'est-ce pas?
Voilà, c'était l'audio du live. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez partager cette session sur YouTube, nous rejoindre aussi tous les premiers mardis du mois en vous abonnant à ma chaîne ou à la cellule. Tenez-vous aussi informé des lives en me suivant sur les réseaux sociaux, sur Mastodon ou sur X par exemple, ou bien tout simplement en suivant le forum romaricbriand.fr. À très bientôt!